On a parlé tout à l'heure de l'évangélisation dans le monde musulman. Ben, on est en France dans le monde musulman maintenant. Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est donner des réponses possibles aux objections islamiques les plus classiques face à l'annonce chrétienne. Tel sera le contenu de notre exposé, en lien avec cette parole du premier pape. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Première lettre de Pierre. Certains peuvent s'étonner que nous nous occupions aujourd'hui plus spécialement de l'évangélisation des musulmans, alors qu'elle est pour tous. Comme si nous faisions ici une fixation coupable sur un groupe particulier de personnes. On peut répondre qu'il y a la foire au vin, les salons du livre, de l'agriculture. On ne va tout de même pas reprocher aux gens qui aiment le vin de ne pas aller au salon du livre. Plus sérieusement, dans l'Église, il y a des formations pour les catéchistes, pour animer des groupes alpha, pour préparer des funérailles, pour entretenir sa foi. Et il n'y aurait donc aucune formation pour rencontrer nos frères en humanité que sont les musulmans ? Ce n'est pas sérieux. D'autant plus qu'ils sont nombreux, très nombreux, à attendre la bonne nouvelle. Il s'agit ici de donner quelques pistes, toutes simples finalement, pour répondre aux objections que l'on peut nous faire. Elles tournent autour de trois thèmes, la Bible, la personne de Jésus et la doctrine chrétienne. Pour un livre, nous aurions classé ces objections en ordre, mais pour un exposé et pour varier, nous prendrons tour à tour les objections dans chacune des trois thèmes cités. C'est dense, vous le verrez, mais il est prévu que vous retrouviez cet exposé comme tous les autres sur YouTube. C'est parti. Au préalable, deux objections plus générales. Nous avons tous le même Dieu. C'est bon. C'est une affirmation, sous-entendue, pourquoi aller plus loin dans nos échanges ? C'est une affirmation facile qui permet au premier abord de favoriser la bonne entente entre personnes de différentes religions. En fait, elle alimente toutes les ambiguïtés possibles et ne résout rien. Oui, effectivement, Dieu est unique. Donc, nous avons tous le même Dieu, d'accord. Et vous pourrez ajouter alors à votre interlocuteur, mais lequel ? Lui vous dira bien sûr Allah, et vous, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bien des mots du vocabulaire religieux sont piégés pour un véritable dialogue islamo-chrétien. Quand un musulman parle d'un croyant, vous pensez à toute personne qui croit et vous vous réjouissez. Pour le musulman, conformément à ce que dit le Coran, le croyant est exclusivement un musulman. Quand un musulman parle de la miséricorde d'Allah, vous pensez au pardon de Dieu pour tous et vous vous réjouissez. Où est le problème ? On est tous frères. Or, pour les musulmans, conformément à ce que dit le Coran, la miséricorde, ou plutôt l'ensemble des bienfaits de Dieu, est exclusivement pour le musulman. D'ailleurs, dans le paradis, n'accèdent que les musulmans, sans exception, conformément toujours à ce que dit le Coran. Enfin, vous vous réjouissez quand un musulman dit, à juste titre, qu'il a beaucoup de respect pour l'Évangile, l'Injil. Et c'est vrai. De même pour la Torah. Seulement, le musulman ne pense pas aux quatre évangiles qui sont au fondement de notre foi. Il évoque l'évangile, un et non pas quatre, qui serait descendu sur Jésus au même titre que la vraie Torah sur Moïse ou le Coran sur Mahomet. Les Juifs et les chrétiens auraient ensuite falsifié les textes sacrés, et du coup, le musulman ne voudra guère aborder nos écritures. Autre préalable, c'est le Coran, qui est la dernière et parfaite révélation de Dieu, d'Allah. La question que l'on m'avait posée, quelle est donc la dernière religion révélée ? La réponse attendue est l'islam, pour que l'interlocuteur puisse me répondre, « Eh ben vous voyez, si c'est la dernière, c'est la plus aboutie. » Alors je lui ai répondu, « La dernière religion révélée ? Mais il y a eu bien d'autres fondateurs ou réformateurs de religions après Mahomet. En voici quelques-uns parmi les derniers. Joseph Smith, 19e siècle, pour les Mormons. Charles Taze Russell, 20e siècle, pour les témoins de Jéhovah. Alors si vous voulez avoir la dernière religion, vous qui êtes musulmans, précipitez-vous donc à aller chez les Mormons. Dépêchez-vous d'aller chez les témoins de Jéhovah. Ou du moins, attendez le prochain. Si c'est le dernier qui a raison. Maintenant, des objections, une objection concernant la Bible. Les Juifs et les chrétiens. Ah, alors voilà, oui, c'est pas grave, voilà, c'est très bien. Les Juifs et les chrétiens ont falsifié la parole de Dieu. C'est une objection essentielle à prendre en compte. Car il ne sert à rien que vous citiez des passages bibliques si votre interlocuteur doute de leur crédibilité. Tout d'abord, dans le Coran, rien ne dit expressément que les Juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures. Même si dans le Coran, les Juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, sourate 5, verset 60, et si les chrétiens sont considérés comme des égarés, 5, 77. Le véritable argument islamique de la falsification de la Bible provient de penseurs musulmans. Deux versets coraniques annoncent clairement dans la Torah et l'Évangile la venue d'un messager qui viendra après Jésus, dont le nom sera Ahmad, ou encore le prophète illettré, sous-entendu le prophète de l'islam. Je vous donne les textes. Rien de tout cela, bien sûr, dans notre Bible. C'est donc la preuve, pour les musulmans, qu'elle a été falsifiée. C'est QFD. Les musulmans considèrent qu'à l'origine, Isaïe 42 et les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean annonçaient la venue de Mahomet. Regardons donc Isaïe 42, qui serait le premier texte falsifié et que l'on pourrait vous présenter. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui, à toute ma faveur, j'ai fait reposer sur lui mon esprit, aux nations il proclamera le droit. Bien, pour les musulmans, il est donc question ici de Mahomet. Mais comme vous connaissez votre Bible, je vous invite avec votre interlocuteur à poursuivre la lecture d'Ésaïe qui parle du même personnage et prendre le chapitre 53 avec votre frère musulman. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. Ah, Mahomet n'a pas été transpercé. À cause de nos fautes qu'il a été broyé, le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et on pourrait continuer. Nous avons là le portrait très précis en Ésaïe de Jésus, notre Sauveur. Oui, Jésus-Christ est annoncé dans l'Ancien Testament des siècles avant sa venue. Prenons maintenant l'évangile de Jean, au chapitre 14 à 16, qui serait un autre texte falsifié. Dans ces chapitres est rapporté le dernier discours de Jésus avant sa crucifixion. Jésus promet à plusieurs reprises d'envoyer le Paraclétos, un terme grec qui donne en français le défenseur, l'avocat, le paraclet, terme approprié pour le Saint-Esprit. Or, les musulmans lisent dans Paraclétos en oubliant les voyelles qui sont secondaires dans l'écriture arabe, le terme périclutos, qui peut dire célèbre, digne de louange, qui est proche du sens du nom arabe Muhammad, qui signifie le bien-aimé. L'accusation grave de falsification pour les chapitres de l'évangile de Jean n'est pas crédible pour plusieurs raisons. D'abord, l'existence de très nombreux papyrus reconnus, notamment au British Library de Londres, montre que dans ces manuscrits qui datent du IVe et Ve siècle, c'est bien le terme parakletos, avec bien sûr toutes les voyelles, qui se trouve inscrit. Et enfin, pour amener nos amis musulmans à réfléchir, prenons simplement le passage incriminé de Jean 14, versets 16 et 17, en remplaçant à chaque fois le mot défenseur par Mahomet. Voilà ce que cela donne. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera Mahomet, qui sera pour toujours avec vous. Mahomet, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, ne le connaît pas, vous, vous le connaissez, car Mahomet demeure auprès de vous et il sera en vous. C'est ridicule. Mahomet n'était pas auprès des disciples du temps de Jésus et il n'habite en personne actuellement. Vous pourrez continuer la discussion en montrant que le triptyque Allah-Coran-Mahomet lance d'autres affirmations sans aucun fondement véritable. Le Coran mentionne par exemple l'existence des djinns. Ah, ce n'est pas les pantalons, hein. Ni anges, ni humains, ce sont des créatures corporelles que l'on ne voit pas mais qui sont très proches de nous. Le Coran parle même de possibles relations sexuelles avec eux. Bref, n'étant pas des purs esprits, on devrait donc avoir des traces corporelles de leur existence. Or, malgré nos moyens techniques et les polices scientifiques, nous n'avons aucune photo de leurs traces avec nos milliards de smartphones, les radars, nos caméras qui voient maintenant tout l'invisible, même l'infrarouge. De même, aucun témoignage sur Facebook de personnes ayant eu des relations amicales ou sexuelles justement avec ces créatures. Ah, ça ferait un buzz, hein ? Ouais, j'ai une relation avec un djinn. Rien bizarre. Ben soyons sérieux, les djinns n'ont jamais existé. N'ayons pas peur de le dire, c'est comme le Père Noël. On peut aussi montrer son étonnement sur d'autres affirmations du Coran, notamment sur l'anatomie humaine ou sur la Trinité chrétienne. Ainsi, quand Mahomet dit que le sperme est créé non dans les testicules, mais entre les côtes et la région des reins, les lombes, que la terre est plate. Comment se fait-il que nous retrouvions là des affirmations de Galien, un médecin grec de l'Antiquité qui n'était bien sûr pas musulman et qui affirmait que le sperme est créé entre les côtes et les lombes dans un monde où la terre était considérée comme plate selon la cosmologie de l'époque? Une question aussi à poser à votre interlocuteur. Vous me direz que des hommes d'Église prenaient encore au XVIe siècle pour révélation de Dieu, qui n'était que connaissance humaine de l'époque, d'où le fameux de Galilée, et pourtant elle tourne la terre. Mais le Coran, pour les musulmans et pour le Coran lui-même, n'est pas du tout comparable aux autres livres sacrés. Il se dit venir directement d'Allah. Il serait donc absolument sans erreur et à prendre tel quel, ce qui n'est pas le cas de la Bible, qui est le fruit d'auteurs humains inspirés. L'inspiration biblique est liée au régime de l'alliance biblique inconnue en islam. Dieu et l'homme sont en collaboration. Dans le Coran, Dieu est le seul auteur et l'homme est soumis, et sa raison aussi soumise au texte du Coran. Enfin, pour clore nos réponses à la falsification de la Bible, si les musulmans nous disent sans complexe que nous avons frelaté le message de Dieu, ils ne seront pas surpris et comprendront parfaitement que nous pouvons retourner leurs remarques avec la même délicatesse. Oui, comment se fait-il que le Coran a été entièrement mis par écrit que de longues années après la mort de Mahomet ? Pourquoi avoir attendu le troisième calife pour avoir les paroles données soi-disant directement et sans erreur à Mahomet ? Allons plus loin. La tradition islamique nous a même légué de nombreux témoignages sur la perte de textes révélés. On peut noter les cas de la sourate 24, la Lumière, et de la sourate 15, qui ont respectivement 64 et 99 versets, contre 100 et 190 à l'origine, d'après Régis Blacher, dans sa traduction reconnue du Coran. Il y a des hadiths troublants, des textes reconnus par la tradition islamique qui posent question. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la tradition islamique. Par exemple, il a été rapporté qu'Aïcha a dit « Les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes ont été révélés. Et les feuillets étaient avec moi sous mon oreiller. » Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement et un mouton est venu les manger. Comment se fait-il que des versets du Coran révélés soient officiellement manquants ? Que certains ont été même mangés par des moutons ? Alors qu'Allah, selon le Coran, et garant de son authenticité et de sa conservation, d'après 15.9, en vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Vaste question que la falsification des Écritures et du véritable auteur de celle-ci. Concernant Jésus, vous suivez toujours ? Voilà. Concernant Jésus, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Nous sommes bien d'accord, musulmans et chrétiens, pour dire qu'il ne peut pas avoir venant de Dieu une paternité charnelle au moyen d'une union sexuelle avec une humaine, comme c'est le cas dans les mythes païens. L'expression « Fils de Dieu » est à prendre au sens spirituel. Ce que le chrétien affirme, c'est que le Verbe éternel, la parole de Dieu, est engendré, généré depuis toute éternité en Dieu. Cette parole s'est faite homme par la toute-puissance divine. Le Verbe s'est fait chair, nous dit l'Évangile. Et cette chair, cet homme, c'est Jésus. Et en ce Jésus, il y a en même temps 100% de la nature humaine. Jésus est parfaitement homme. Et 100% de la nature divine, Jésus est parfaitement Dieu. Et aucune de ces deux natures n'est mélangée, abaissée ou confondue. Elles sont présentes dans cet homme appelé Jésus. Ce qui explique que dans certains passages de l'Évangile, Jésus veut parler en tant qu'homme. Le Père est plus grand que moi. Le Fils ne connaît pas la date de la fin du monde. Mais il va aussi faire des choses que seul Dieu peut faire, et notamment il dit qu'il est Dieu. Jean 13, 19. Je vous ai dit toutes ces choses, moi je suis. Et ce je suis, c'est le même je suis que Dieu dit lorsqu'il se révèle à Moïse dans l'Ancien Testament en Exode 3, 14. Pour éviter toute ambiguïté, on devrait être plus précis dans nos termes, je reprends un terme du père François Jourdan, car Dieu dans le Nouveau Testament, c'est la plupart du temps le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3, 16. Donc plutôt que dire Jésus est Fils de Dieu, il faudrait préférer l'expression Jésus est le Fils du Père dans le cœur du Dieu unique. Revenant au Coran, il est fait mention de nombreuses fois du titre « Jésus, fils de Marie ». Sa mère est toujours nommée, et c'est d'ailleurs la seule femme qui soit nommée dans le Coran, et elle est évoquée 34 fois. La sourate 19 porte même son nom et lui est entièrement consacrée. C'est curieux quand même que le Coran ait cru bon de bien préciser que Jésus est fils de Marie. Mais alors, du coup, comment se fait-il que le père de Jésus ne soit jamais mentionné ? Mahomet aurait très bien pu dire que Joseph était le père véritable de Jésus et montrer ainsi que Jésus était vraiment un homme comme tout le monde. Rien de tout cela dans le Coran, si ce n'est un vide à ce sujet. Curieusement, il faut noter que dans le Coran, Jésus est nommé comme étant un fils pur, alors que Mahomet avait besoin du pardon des péchés, 48:2. C'est très étonnant. Que Marie, la mère de Jésus, est très hautement louée comme nulle autre femme dans le Coran. Et que son père véritable, curieusement, n'est jamais nommé. Allah, qui connaît toutes choses, ne nomme pas le nom du père de Jésus. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui donc est son père que le Coran ne nomme jamais, alors que sa mère l'est tout le temps? Tout cela montre en creux que Jésus est le Fils de Dieu. Une question est possible. Le Coran dit que Dieu peut voir sans yeux, peut parler sans langue, peut entendre sans oreille. Si c'est le cas, il peut avoir un enfant sans coucher avec une femme. Douterais-tu, toi musulman, de la puissance de Dieu ? Concernant maintenant la doctrine chrétienne, pour moi, c'est le point le plus important. Pour accéder au paradis, il faut accomplir des bonnes œuvres qu'Allah récompensera. C'est beaucoup plus logique que Jésus se sacrifiant pour l'humanité en rachetant les péchés des hommes. L'homme n'a pas accès au paradis par la mort de Jésus. Autrement dit, les musulmans estiment qu'il suffit de l'être musulman et d'accomplir les bonnes œuvres instituées par Allah pour accéder à son paradis. Eh bien, je m'excuse auprès des musulmans, mais ce n'est pas ce que disent Mahomet et le Coran. Le prophète Mahomet lui-même déclare qu'il ignore ce qui lui arrivera. À une femme qui louait un défunt, Mahomet répondit : « Cet homme, la mort l'a frappé, et je lui souhaite le meilleur au nom d'Allah. Par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, j'ignore ce qui m'arrivera, tout comme toi. » Pareil, c'est directement pris dans un hadith, reconnu par l'islam, bien entendu. On trouve aussi dans le Coran cette phrase que vous voyez à l'écran, dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. » Bref, si donc le leader de l'islam, lui-même, ne sait pas où il va, qu'en est-il de ses disciples ? Il est à noter que 5 fois par jour, dans leur prière, tous les musulmans prient que la paix et le salut soient sur Mahomet. Ils prient pour que Dieu lui accorde l'entrée au ciel. C'est étonnant quand même. Ce n'est quand même pas rien que de suivre les ordres d'Allah sans être sûr d'aller en son paradis. De plus, dans le Coran, il est beaucoup question de l'enfer. Il ne faut donc pas s'étonner qu'un musulman pratiquant soit dans la peur, dans le doute de son salut, et donc loin d'une joie épanouissante. De plus, le paradis islamique expliqué par Mahomet est assez spécial. On peut le dire ça aux musulmans. Cela commence bien. Le paradis, Dhyana, est une sorte d'oasis suprême, un jardin avec des fleuves d'eau vive, une végétation luxuriante, des festins. La suite est étonnante. Des jeunes filles aux grands yeux noirs, les houris, sont au service des hommes. Derrière elles se trouvent des tentes pour jouir sexuellement de ces vierges à répétition. Le paradis islamique est finalement une exacerbation de tous les sens, un orgasme éternel. Un paradis qui n'a donc rien de surnaturel, où finalement Dieu n'est guère présent. Un paradis où on ne sait même pas si Mahomet y est. Le comble. Pourquoi ? Aucune vie n'est digne du Très-Haut. Car toute vie est attachée d'erreurs, de mal, de péchés, de transgressions qui blessent l'honneur infini, la pureté extraordinaire et la justice infinie aussi de Dieu, quoi que l'on fasse. Vous connaissez sans doute cette histoire. Une femme prépare une pâte qui a besoin de plusieurs œufs. Par inattention, elle mélange un œuf pourri à la pâte. Que fait-elle ? Ajoute-t-elle encore quelques œufs en espérant que la présence de l'œuf pourri ne se remarquera pas ? Inutile, car tout le monde sait bien qu'un œuf pourri gâte toute la pâte, peu importe le nombre de bons œufs utilisés par ailleurs. Eh bien, de même, un seul péché gâche notre vie tout entière, et Dieu ne peut nous recevoir dans sa présence simplement au vu, soi-disant, de nos bonnes actions. Vient alors la dimension du sacrifice. En islam, la fête du sacrifice, Ouïd el-Kébir, grande fête, prévoit le sacrifice d'une bête de troupeau, généralement un mouton, à partager avec ses proches et des pauvres, en mémoire de la soumission à Dieu d'Abraham, prêt à offrir son fils Ismaël pour les musulmans, et auquel fut in extremis substitué un mouton. Il faut savoir qu'il y a des sacrifices dans toutes les religions. L'homme, dans toutes les religions, a toujours voulu se racheter pour retrouver la pleine communion avec Dieu par des sacrifices. Car il y a une notion de réparation dans l'idée de sacrifice. Mais quel sacrifice peut être à la hauteur de l'outrage que nous avons pu faire à Dieu ? On peut dire pardon à Dieu, d'accord, mais cela ne répare rien. Croyez-vous qu'un pauvre animal, quelques kilos de viande que vous avez sacrifiés, va racheter vos affronts devant Dieu ? Dites-le à votre ami musulman. C'est comme si vous défonciez une voiture et offriez des bonbons à la réglisse au propriétaire en guise de réparation. C'est ridicule. Nous sommes au cœur du problème. Tout péché est une offense extrême faite à Dieu. Pour nous, chrétiens, Dieu est tellement le Très-Haut que seul Dieu lui-même peut racheter les affronts qu'on a pu lui faire. C'est pour cela que le Verbe éternel venant du Père des cieux est venu sur terre en s'incarnant en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Pour nous, chrétiens, le don de Jésus et sa vie donnée librement comme sacrifice est l'offrande parfaite que Dieu peut accueillir. Car Jésus, en plus d'être homme et Dieu, venu nous rejoindre et assumer nos fautes aux yeux de Dieu. Si donc, toi, musulman, tu veux être agréable à Dieu, il s'agit de lui donner le seul sacrifice qu'il agrée, pas le mouton. Jésus le Sauveur. Il s'agit pour toi d'accepter Jésus dans ta vie, dans ton cœur, d'offrir à Dieu tout au long de ta vie Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas faire autrement que d'agir comme lui, lui qui a fait du bien à tous, de suivre les commandements de Dieu. comme l'a fait Jésus. Nous faisons de bonnes œuvres, non pour mériter le paradis, mais en remerciant Dieu pour son amour, en laissant agir Jésus en nous. Et effectivement, un chrétien qui ne fait pas de bonnes œuvres a de grands risques de ne pas aller au paradis. Non pas parce qu'il ne fait pas de bonnes œuvres en soi, mais s'il ne fait pas de bonnes œuvres qu'il pourrait faire, cela signifie surtout qu'il n'a pas Jésus en lui, qu'il a sauvé par son sacrifice et qu'il lui a donné l'Esprit Saint pour agir comme lui. Sache que la messe des chrétiens est le sacrifice parfait où Jésus se donne au Père pour notre salut, notre guérison, et l'épisode du sacrifice d'Abraham en était la préparation. Enfin, pour terminer, voilà une question à poser. Dieu fait alliance avec les hommes. Il s'engage pour tous les hommes qui acceptent Jésus comme sauveur à ouvrir son cœur. Alors qu'en islam, la seule expression en vigueur est « Inch'Allah », autrement dit « si Dieu le veut ». Alors toi, musulman, es-tu sûr de ton salut? Car en islam, rien ni personne ne vient véritablement racheter ce que tu as fait de mal. Rassurez-vous, c'était l'objection est un peu plus consistante. Hein, voilà, ça va être un peu plus léger maintenant. Voilà. Concernant la Bible, vous me dites que le Coran est violent, mais la Bible est tout autant, autrement dit, balle au centre. Il y a violence et violence, chères sœurs et frères. Les journaux d'information sont aussi parfois choquants, parce que les événements de la vie le sont souvent. Certes, la violence est présente dans la Bible. On la raconte, on la décrit, elle exprime parfois un moment historique, limité dans le temps et l'espace. Ce n'est aucunement une obligation universelle et pour tous les temps, comme le fait Allah, à combattre les infidèles qui ne sont que des souillures en 9:28. Un des derniers versets qui n'est pas abrogé. Concernant les croisades, ah là là, la tarte à la crème. Prétendre qu'elles sont l'équivalent chrétien du djihad est un raccourci totalement abusif. Les croisades, avec ces dérapages, c'est vrai, sont un événement ponctuel de la chrétienté, qui n'est pas le christianisme, mais une période historique de celui-ci, alors que le djihad armé est une constante de l'histoire de l'islam, car il est inscrit, quoi qu'on en dise, dans le Coran. Oui, il est arrivé dans l'histoire du christianisme que des guerres aient été menées à tort au nom de la religion. Les responsables de ces guerres invoquaient leur foi, leur sentiment religieux pour les justifier. Mais en aucun cas, et il faut le dire, les écrits originaux et la théologie chrétienne ou judéo-chrétienne n'ont prescrit la violence et la guerre comme un devoir religieux, à la différence du Coran et des hadiths. On ne dira jamais assez que le but des croisades était au départ défensif. Il s'agissait de voler au secours des chrétiens persécutés par l'islam sur une terre sur laquelle ils étaient présents, bien avant la naissance même de Mahomet, et dont leur liberté, leurs biens et leurs terres leur ont été dérobés. C'est une réalité. De plus, la conquête de la Palestine par les Turcs rendait la situation invivable et les pèlerinages réautorisés entre-temps furent à nouveau proscrits. Impossible aux chrétiens d'aller visiter leur propre lieu saint comme auparavant. Était-ce acceptable, cela aussi? Un autre point fort embarrassant dans l'islam est que l'appel à la prière et l'invitation au meurtre est le même, Allahu Akbar. En fait, il ne faut pas comparer, sœurs et frères, la Bible et le Coran, car vous faites une impasse. On va dire, ben voyez, il y a de la violence dans le Coran, la violence dans la Bible, ben voilà, on est quitte. La Bible et le Coran n'ont pas le même statut, n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même fonction. Il faut plutôt comparer la parole de Jésus avec celle de Mahomet, et tout s'éclaire. Car le chrétien n'est pas un disciple de la Bible. Le chrétien n'est pas un disciple d'un livre. Le chrétien est disciple d'une personne, Jésus, le Verbe de Dieu, et non pas de la Bible qui a été rédigée sur des siècles et qui préparait justement la venue de Jésus. Alors que le musulman est tenu de suivre tout le livre du Coran, sans oublier bien sûr la sunna, la charia, et plus particulièrement les versets coraniques les plus récents, qui sont violents et qui abrogent les plus doux. Une question à poser. Vous comparez donc le Coran et la Bible au sujet de la violence. Où trouve-t-on dans le Coran, au fil du temps, la pédagogie de Dieu à aimer et à renoncer à la violence, comme c'est le cas dans la Bible, au fil de sa rédaction, avec le message d'amour et de vérité de Jésus en point d'orgue. Concernant Jésus, là c'est plus léger, là franchement. C'est pudding, hein? Alors on mange bien spirituellement, puis après on mangera bien après. Ah, Jésus n'a pas été crucifié, car il est impossible qu'Allah laisse mourir un prophète d'une façon aussi horrible et déshonorante. Mais alors, quel musulman donc était là, 6 siècles avant la naissance de Mahomet, pour savoir ce qui s'est réellement passé? Quelle preuve historique as-tu, toi, musulman, pour justifier la négation de la mort de Jésus en croix? De plus, le Coran affirme que les prophètes qui ont précédé Jésus ont bien été persécutés et tués. 261, 312, 570. Alors pour quel motif il aurait été indigne que Jésus, un envoyé de Dieu, aussi, l'envoyé de Dieu par excellence, soit persécuté et mort crucifié? Oui, comment se fait-il qu'il aurait été indigne pour Jésus de mourir sur une croix et qu'Allah aurait alors protégé en mettant un sosie à sa place sur la croix, c'est ce qu'affirment les musulmans, et qu'il n'a rien fait pour Mahomet, le laissant mourir de manière humiliante? Une simple femme qui vaut moins qu'un homme dans le Coran, a été plus forte que lui, the modèle. Une simple cuisinière de la ville de Kébar a simplement mis du poison dans son repas. C'est pas glorieux, hein, pour le soi-disant prophète de l'islam. Ouvrez les yeux, chers amis musulmans, ouvrez les yeux. Enfin, il y a un signe de Dieu pour les musulmans, aussi concernant Jésus mort sur une croix et ressuscité. Ils aiment le merveilleux, les musulmans. C'est l'existence du Saint-Suaire de Turin, où aucun scientifique n'a pu donner une explication naturelle à cet événement surnaturel. J'invite les musulmans à consulter ce sujet sur Internet, il y a de quoi être passionné de ce qui est dit. Il y a le nombre exact de coups de fouet, la couronne d'épines, et j'en passe. Le deuxième point le plus important, c'est celui-ci. Il n'y a qu'un seul Dieu, comment les chrétiens peuvent-ils croire en la Trinité, donc en trois dieux, on ne peut rien associer à Allah. Plus généralement, les chrétiens sont accusés d'adorer plusieurs dieux, puisque la Trinité est interprétée par les musulmans comme un signe de polythéisme en associant des créatures à Allah, le seul Dieu. Il est bien sûr impensable dans cette logique que Jésus soit divin, soit Dieu. D'abord, vous pourrez faire constater à votre interlocuteur que les Juifs et les chrétiens n'ont pas attendu l'arrivée de l'islam pour refuser d'associer des humains à Dieu. Dans l'Antiquité, par exemple, des centaines de milliers de chrétiens sont morts en refusant d'adorer César. D'emblée, chères sœurs et frères, ne rentrez pas dans une discussion théologique où vous ne vous en sortirez pas. Il a fallu des siècles de confrontation entre chrétiens et adversaires pour arriver à une doctrine trinitaire qui reprend à la fois la révélation biblique illuminée par le Christ et précisée par le langage philosophique avec des mots savants comme essence, accident, substance, hypostase, personne, nature. Vous comprendrez que le mot « personne » ne peut pas avoir le même sens pour Dieu et pour nous qui sommes des individus. Pour reprendre l'objection apparemment très convaincante et déstabilisante, notamment j'ai ça sur YouTube avec certains didates, vous dites « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit une personne, puis une deuxième et enfin une troisième, et vous dites qu'ils ne sont pas trois personnes mais une seule ». Quoi répondre ? Pas facile a priori, hein ? Sans entrer, rassurez-vous, il y a une piste. Ah, j'ai duré le suspense, ça. Hein ? Non, et en plus, ça va vous faire poser un petit peu, on en a besoin. Sans entrer dans la théologie, n'y allez pas. Dans notre monde, il existe des réalités déjà où plusieurs personnes n'en font qu'une. Ce ne sont pas certes des personnes humaines, de même que le Père et le Fils et le Saint-Esprit dans la Trinité ne sont pas des personnes humaines non plus. Prenons la société Airbus, par exemple. On vole encore, hein ? En droit, Airbus est une personne morale. Et comme toute personne physique, comme vous et moi, elle est identifiée par son nom, son domicile, son siège et sa nationalité. Ceci étant, Airbus n'est pas monolithique. Airbus est un, unique, certes, mais il est constitué non pas de trois, mais de milliers de personnes. C'est une image qui a ses limites, qui ne doit pas être calquée sur la Trinité. Car la Trinité n'est pas une société qui a son siège à Paris, ça serait. Ceci étant, si dans notre monde, il existe des réalités où plusieurs personnes n'en font qu'une, alors pourquoi pas au ciel ? Redire que la Sainte Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes distinctes qui sont chacune Dieu et qui ne constituent pas ensemble trois dieux, mais un seul et même Dieu. Comment cela est possible ? Continuez là avec votre interlocuteur musulman. Pourquoi cela c'est possible ? Parce que pour nous, chrétiens, par essence, Dieu est... Ah, vous suivez, voilà. Dieu, pas tous, hein, voilà. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. Tandis que pour les musulmans, l'amour est seulement, entre guillemets, une qualité de Dieu. Dans les 99 noms de Dieu, nous n'avons pas Dieu est amour. Il n'est pas père non plus. Nous avons quand même, dans 11,90, et implorez le pardon de votre Seigneur, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. C'est dans le Coran, mais ce n'est uniquement vrai que pour les musulmans. C'est parce que Dieu, qui est un, est amour, qu'il est trinitaire. L'un ne va pas sans l'autre. Car qui dit amour, dit don de soi librement à un autre. Par amour, sans deux êtres, car sinon c'est du nombrilisme. De plus, pour aimer, il ne faut pas fusionner. C'est l'Esprit Saint qui maintient la distance respectueuse de l'amour entre le Père et le Fils. Mais ce qui va toucher votre interlocuteur, c'est plutôt la suite maintenant de l'argumentation. Demandez-lui ce qu'il sait de la Trinité. Dans tous les cas, faites un signe de croix avec la formule « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » en précisant bien que le « au nom » est au singulier, même si les trois personnes sont décrites. Et posez ensuite cette question à votre interlocuteur. Comment se fait-il alors qu'Allah pense que pour les chrétiens, la Trinité est constituée d'Allah, du Jésus coranique et de Marie ? Et lui montrer les textes correspondants. D'autres, on a la même affirmation ailleurs, notamment en 5, 72 à 75. Insistez en disant que tous les chrétiens font le signe de croix en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et non au nom d'Allah et de Jésus et de Marie sa mère. Si donc le Coran est la parole de Dieu, comment peut-il y avoir une telle erreur ? N'hésitez pas à enfoncer le clou. Vous avez là un argument imparable. Utilisez-le à fond. Il ne s'agit pas d'être gentil avec votre interlocuteur. Il s'agit de l'aimer et de lui proposer la vérité. Ce qui n'est pas pareil. Jésus n'a pas été gentil. Il était plein d'amour et de vérité envers tous. Alors, allons même un peu plus loin dans le questionnement. Dans le Coran, on ne sait toujours pas bien distinguer Mahomet et d'Allah dans les prérogatives divines qu'ils exercent. Quiconque désobéit à Allah et à son envoyé aura le feu de l'enfer. Les musulmans associent si bien Mahomet à Allah qu'obéir à l'un, c'est obéir à l'autre, 4,80, au point d'accepter que Mahomet, comme Dieu, ait droit de vie et de mort sur eux. Un exemple. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforce, etc., etc. Ici, on se rend compte qu'Allah et Mahomet sont indissociables, que la peine est identique si on touche à Allah ou à Mahomet, alors que pourtant Allah est le seul Dieu et le tout autre, et Mahomet n'est qu'une créature. Alors pourquoi ici, et donc pratiquement tout le Coran, Mahomet est mis au même niveau qu'Allah dans les peines prononcées. Allah, le Coran et Mahomet ne sont-ils pas si étroitement indissociables que l'on ne connaît pas l'un sans l'autre ? Retirez un des membres du trio Allah, le Coran, Mahomet et l'islam s'écroule. Enfin, comment peut-on critiquer les chrétiens d'associationnistes quand ils disent qu'au ciel, Dieu est à la fois un et à la fois trois, alors que pour les musulmans, au ciel, depuis toujours, ils sont au moins deux, Allah est le livre éternel qui donnera plus tard le Coran. Oui, pourquoi dire que certains sont associationnistes et pas d'autres ? On attend de voir deux petits points. Concernant la Bible, pourquoi rejetez-vous l'évangile selon Barnabé qui se rapproche du Coran ? Bien des passages du Coran sont tirés d'évangiles apocryphes, c'est-à-dire non reconnus dès le départ par l'Église. Ces textes et nos quatre évangiles sont grosso modo de la même période. Mais les apocryphes ressemblent davantage à des contes pour enfants, avec beaucoup de merveilleux qui n'apportent strictement rien au message que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est venu nous sauver. Voyons maintenant l'évangile de Barnabé. On y trouve dedans, si vous l'avez entre les mains, des duels entre rivaux amoureux, des citations de Dante qui a vécu au XIIe, XIIIe siècle. Jésus aurait fait carême, alors que cette pratique n'a été instituée qu'au IVe siècle. Il est question de pièces de monnaie appelées minutes, mais celles-ci n'ont été utilisées qu'au VIIe siècle en Espagne. Il est manifeste que l'évangile de Barnabé ou Barnabas est une contrefaçon, soi-disant écrit au Ier siècle. Il est l'œuvre d'un chrétien converti à l'islam au XIVe siècle à Venise. Une question pourra alors être posée. Pourquoi ne lisez-vous donc pas les quatre évangiles? Ils ne risquent pas, eux, d'être falsifiés, car ils ont été écrits avant l'arrivée de l'islam. Vous voyez, c'est une manière de rebondir. Ils ont posé une question. Vous posez une question parce que ça va faire réfléchir votre interlocuteur. Je passe, mais celle-là, elle est bien. Donc, je vais passer celle-ci. Voilà. Je suis un peu perdu, hein. Voilà. Donc ça, on est la 12-1. Voilà. Vous dites que Marie est mère de Dieu. Or, les chiens ne font pas des chats. Marie est donc bien une déesse pour vous. C'est bien la preuve que vous associez des créatures à Allah. D'autant que nous, catholiques, on a beaucoup prié avec Marie. Donc, c'est une objection à prendre en compte. Pour faire bref, vous le savez, la formule « Marie, mère de Dieu » remonte au moins au IVe siècle et fut utilisée notamment dans les conciles œcuméniques de l'époque dans un contexte de controverse théologique autour de l'identité du Christ. On aurait écrit simplement que Marie est mère de l'homme Jésus. Effectivement, Marie n'aurait pas été perçue par certains à tort comme une déesse. Mais la formule aurait insinué ce qui aurait été bien plus grave, que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, n'était pas divin dès sa conception, que le Verbe éternel auprès du Père ne s'est pas vraiment fait homme. Et donc refuser le titre « Mère de Dieu », c'est refuser l'union des natures divines et humaines en l'unique personne du Christ, et ce, dès sa conception. On peut reprendre l'épisode de la visitation de Marie, enceinte, elle avait Jésus dans son ventre, à sa cousine Élisabeth qui lui dit « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Autrement dit, la mère de mon Dieu, la mère de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas Marie qui a donné la nature divine à Jésus. Elle est humaine comme vous et moi. Mais en elle, Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Dès sa conception, Jésus est de nature divine en Marie, sa mère humaine. Voilà ce que signifie Marie, mère de Dieu. Et là, vous pouvez apporter une preuve, il faut être concret aussi. Dans notre chapelet, si Marie était une déesse, nous aurions l'invocation « Sainte Marie, Mère de Dieu, nous te prions. » Ce n'est pas le cas. Nous avons la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. » Autrement dit, prie pour nous et avec nous, Dieu. Je passe. Celle-là est aussi intéressante, ça prend une minute. Bon, ce n'est pas la plus... Vous êtes sûrement... vous la faire, cette objection. C'est votre saint Paul qui est le véritable fondateur du christianisme et non le Christ comme vous le prétendez. Dans le Nouveau Testament, qui comporte 27 lettres ou épîtres, évangiles compris, nous en comptons 14 de saint Paul. Alors n'est-ce pas la preuve que c'est saint Paul qui est le grand falsificateur et le vrai fondateur du christianisme et non pas Jésus? Tout d'abord, ce n'est pas du tout ce que dit Paul de lui-même. Il dit qu'il est un serviteur, un messager, et que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Première lettre de Timothée. Deuxièmement, on voit bien que Paul n'est pas un chef de secte solitaire qui travaille de lui-même, un gourou profiteur qui a des avantages, qui a 12 femmes, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quelqu'un qui a annoncé Jésus, la parole de Dieu, en collaboration avec d'autres apôtres, et en particulier avec Pierre. Troisième et dernier point, l'enseignement de Paul est en continuité avec l'enseignement de Jésus et avec celui des apôtres. Paul, oui, enseignait la divinité de Jésus, mais Jésus l'a déjà enseigné, nous l'avons vu tout à l'heure. Avec le même argument contre saint Paul, on pourrait répondre que c'est Mahomet qui est le véritable fondateur de l'islam, du Coran et non le vrai Dieu, puisque tout, absolument tout en islam repose sur un seul homme, Mahomet. Je vais arrêter là, je vais arriver directement à la conclusion. On a sauté, mais ce n'est pas grave, vous voyez, on a toujours à approfondir. Voilà, je vous mets de l'eau à la bouche, hein, c'est pour la suite. Nous avons vu exclusivement ici les réponses intellectuelles que l'on peut donner aux objections faites au christianisme. Les objections que l'on nous fait, vous avez vu, sont très violentes. Et on en prend plein la figure. Et rien ne nous empêche, sans complexe, avec le sourire, avec amour, de répondre au tac en posant des questions qui vont amener votre interlocuteur à réfléchir. Car un musulman qui réfléchit, c'est un musulman qui est en danger. Pour son bien. Bien sûr, un minimum de discernement basé sur le respect et la charité est un préalable si la motivation première est le dialogue. Pour reprendre le psaume 85:11, amour et vérité se rencontrent, et vérité, car je crains malheureusement que dans l'Église actuelle, c'est l'amour qui prime sans la vérité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Mais au fond, le premier devoir pour un dialogue fructueux et vrai est la prière avant, pendant et après, pour que l'Esprit Saint puisse véritablement faire son travail, car c'est lui qui travaille en amont, pendant et après, favoriser la rencontre personnelle avec le Christ, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Amen.